Bonjour à tous. Solzhenitsyn, quel dissident était-il? À l'occasion du centenaire de l'écrivain russe, retour sur la vie et le combat d'un homme en lutte avec son siècle, pour reprendre le titre d'une exposition qui lui est consacrée à Paris, alors que paraissent aussi ou reparaissent plusieurs de ses textes. Invité à partir de 12h55, le plus grand spécialiste de littérature russe, Georges Niva, et la journaliste Véronika Dorman, ancienne correspondante de Libé à Moscou. Mais d'abord, de nouvelles traductions pour quoi faire? Dépoussiérer ou revisiter les œuvres de Poe, Orwell, Italo Calvino ou encore Kafka. Deux volumes viennent de sortir à la Pléiade. Et comment retraduire sans trahir? Avec nous ce vendredi, deux traducteurs éclectiques, le polytechnicien et écrivain Jean-Jacques Greff, qui a 70 ans passé, signe sa première traduction, celle de L'île au trésor de Stevenson chez Tristram, et Daniel Robert, après les métamorphoses d'Ovid, elle planche, elle, sur la Divine Comédie de Dante.
La grande table. Olivia Gesbert.
Prose, poésie, théâtre, même combat. Il y a toujours des mots, des sonorités et des rythmes. C'est toujours de la musique. Un écrivain et un traducteur, c'est aussi et peut-être surtout des musiciens. Et j'ajoute le théâtre parce que tout ça pour moi, c'est profondément oral. La vocation d'un texte, c'est d'être lu à haute voix. C'est là qu'il se met à vivre vraiment. Donc les livres, on les aime beaucoup, on les vénère, mais ce ne sont jamais que des partitions.
La voix du traducteur Michel Volkovitch. C'est vrai qu'on va autant parler ensemble aujourd'hui de littérature que de musique, parce que quand il s'agit de traduction, il faut que les mots et les phrases sonnent. Bonjour à vous, Jean-Jacques Greff.
Bonjour.
Vous venez, je l'évoquais, de traduire ou retraduire L'île au trésor de Robert Louis Stevenson chez Tristram. Une première pour vous à 70 ans de passé, grand lecteur, vous avez choisi de vous prêter à ce jeu de la retraduction de cet écrivain, spécialement L'île au trésor. À vos côtés, Daniel Robert, elle est avec nous en duplex d'Aix-en-Provence. Bonjour.
Bonjour.
Après les métamorphoses et les écrits érotiques d'Ovide, vous planchez donc depuis quelques années sur la Divine Comédie de Dante. Les deux premiers volumes, L'Enfer et le Purgatoire, ont paru chez Actes Sud, et ce, en attendant le Paradis. Daniel Robert, une édition bilingue de la Divine Comédie, traduite, préfacée et annotée par vos soins, vous ouvrez sur la modernité des rimes de la Divine Comédie. Pourquoi retraduire si la modernité était déjà présente dans la structure générale de l'œuvre?
Certes. La modernité de Dante est présente dans la structure de l'œuvre. Il se trouve que en France, on a toujours répugné à prendre le corps du texte tel qu'il est et à le traduire en respectant justement le système que Dante a mis en place et qui n'est pas une simple enveloppe, qui n'est pas un ornement, mais la chair même du sens qu'il veut partager avec le lecteur. Je me suis attachée à ça parce que c'est ce que je fais pour toutes les traductions que j'ai publiées. J'ai toujours le souci d'aller au cœur du texte, de m'en imprégner et de rendre compte dans ma traduction de toutes ces dimensions. Et là, il s'agit d'une dimension très fondamentale, c'est le système de la terzine, c'est-à-dire une strophe de trois vers, qui sont des endécasyllabes, la totalité donnant 33, et chacune de ces strophes rime par une sorte de tresse. C'est-à-dire que la première strophe rime en 1 et 3, les deux vers, 1 et 3 riment ensemble, mais le vers 2, lui, et semble orphelin, et il va entraîner deux nouvelles rimes dans la strophe suivante, en 1 et 3 également. Et de strophe en strophe, on va avoir un mouvement extrêmement... une pulsation musicale, qui donne au texte de Dante une extraordinaire vigueur. Et je disais que c'est fondamental parce que ce 1 et ce 3, cet entraînement est pour lui... la signification profonde de ce que le lecteur découvre petit à petit, c'est sa foi dans la Trinité.
Vous avez donc cherché.
Donc, paf. Ouais.
Oui. Daniel Robert a collé le plus possible à la forme d'origine. C'est-à-dire, contrairement à d'autres traducteurs, de traduire en vers rimé et de prendre en compte cette tierce rime pour faire résonner au mieux la musique de Dante. Jean-Jacques Greff, pourquoi vous, ce choix de retraduire Stevenson? Est-ce qu'on a envie d'une nouvelle traduction quand on pense que celles qui les précèdent sont un peu vieillottes? Est-ce qu'il y a toujours cette envie de moderniser?
Je sais pas, mais moi je suis comme la personne qui vient de me précéder, et je suis très jaloux d'ailleurs. Et si elle a retraduit Dante, parce que ça, c'est parce que ça n'avait pas été fait à son avis de la bonne manière. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai marché sur ce qu'on appelle le chemin de Stevenson. C'est dans les Cévennes. Stevenson, il a fait une randonnée d'une douzaine de jours avec une ânesse qui s'appelait Modestine, et il a écrit là-dessus. Et ben aujourd'hui, on peut suivre ce chemin. Il y a des panneaux. C'est pas difficile de les trouver. Et j'ai fait ça. Et quand on fait ça, on va dans les pas de Stevenson. Et on peut, si on veut, se prendre un peu pour Stevenson. On peut lire son livre et penser qu'on...
On l'a peut-être écrit.
Voilà. Et
qu'on l'a peut-être écrit.
Non, on devient copain avec Stevenson d'une certaine façon. Et moi, j'ai beaucoup voyagé. J'étais un peu aventurier comme lui. J'ai écrit des livres et j'ai traduit beaucoup. C'est pas ma première traduction, c'est ma première traduction publiée. C'est ma première traduction publiée, mais au cours de ma vie, j'ai beaucoup traduit. Du coup, j'ai eu envie, puisque j'étais déjà, quand on suit ce chemin, on a envie de lire son journal de voyage dans les Cévennes, quand il raconte sa promenade. Et puis ensuite, j'ai eu envie de relire L'île au trésor. Et puis, j'ai envie de la traduire parce que, de la même manière qu'il n'y avait pas de traduction de Dante avec ce qu'on appelle la terza rima, je crois, hein, les rimes par tiers, comme ça, eh bien, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de... J'ai pensé qu'il n'y avait pas de traduction de Stevenson avec le rendu du langage des pirates, par exemple, tel qu'il le fait. Parce que c'est courant dans la littérature anglaise qu'on triture un peu l'orthographe et la grammaire pour bien rendre la manière dont les gens parlent. Alors, c'est surtout vrai chez un écrivain qui est un de mes préférés, c'est Dickens. Donc Dickens, il fait des choses extraordinaires avec la langue, en inventant des mots et des manières de les écrire, pour rendre la façon dont les gens parlent. Et il me semble que Dickens devrait être traduit, mais je ne sais pas si je me lancerai là-dedans. Mais en tout cas,
mais vous comprenez Stevenson, le sens de la question, Jean-Jacques Greff. Est-ce que toute traduction est une écriture ou une réécriture d'un livre?
C'est une réécriture dans la mesure où le livre a déjà été écrit. Mon nom n'est même pas sur la couverture, c'est Stevenson qui est sur la couverture. Mais en même temps, c'est une écriture. Si on veut essayer d'avoir vraiment le Stevenson le plus près possible, ou tel que moi je le connais, je le connais parce que j'ai marché dans les Cévennes, si vous voulez. Je le sens d'une certaine façon, ou parce qu'il a voyagé et que j'ai voyagé un peu de la même manière. Je le trouve pas dans les traductions existantes, qui sont pourtant très bien. Et les traducteurs qui ont traduit le trouvaient le Stevenson qu'ils connaissaient. Mais bon, mon ami Stevenson, je le trouvais pas. Et du coup, j'ai écrit. Et certains passages sont pas tellement réécrits parce que, mais il y a des choses originales dans la manière dont il a inventé un langage, par exemple le langage pour les pirates, en inventant des mots, etc. Et donc ça demande ça une écriture. Faut inventer aussi, faut trouver des nouveaux mots, etc.
Il y a forcément une part d'imagination dans la traduction. Juste de votre côté, Daniel Robert, comment vous avez fait connaissance de Dante? Comment vous l'avez rencontré? Comment vous êtes-vous rapproché de lui?
Je l'ai lu il y a très longtemps, donc je le connaissais, mais je ne pensais pas devoir un jour m'affronter à la traduction de la Commedia. Ce qui m'en a donné l'idée, c'est une autre traduction que j'ai faite, qui est les rimes de Cavalcanti. Cavalcanti est un poète de la même époque que Dante, son aîné de 15 ans, et il l'a énormément influencé. Et c'est un auteur qui, de la vie même des Italiens, est le plus difficile de la langue italienne. Mais sa poésie m'a bouleversée. Elle est très très belle, donc ce sont des pièces courtes, hein, des sonnets, des ballades, des chansons. Et lorsque je me suis aperçue que je pouvais traduire, en respectant la métrique et la prosodie de Cavalcanti, de tels textes, je me suis dit pourquoi ne pas essayer avec Dante.
D'autant que Dante avait, Daniel Robert, mis en garde les traducteurs, qu'il appelait à ne pas briser l'harmonie de cette divine comédie. Traduire la divine comédie pour tout traducteur, il paraît que c'est la réputation qu'à l'œuvre, c'est une entreprise en fait aussi titanesque que l'ascension du purgatoire. Hein.
Oui, Dante ne dit pas qu'il est impossible de traduire l'harmonie. Il dit qu'on ne peut pas transposer une langue dans une autre sans nuire à son harmonie. Mais la condition, c'est de trouver une harmonie qui est l'équivalent dans l'autre langue de celle que l'on traduit. Donc, c'est très différent. Donc, évidemment, mon souci, c'était d'être au plus près de la forme de Dante, c'est-à-dire au plus près des endécasyllabes, mais sans faire toujours des endécasyllabes en français, et au plus près de la tierce rime, en jouant de toutes les possibilités que ma propre langue m'offre. On ne traduit pas une langue, on traduit un texte. C'est ça, c'est très important. Et donc, le texte, avec toutes ses dimensions, dans toutes les possibilités qu'il offre, parce qu'il accueille une traduction. Tout grand texte accueille une traduction, la sollicite. C'est comme ça qu'il perdure. Et le traducteur, lui, accueille la langue du texte original, mais il la remodèle, il la transforme avec sa propre écriture. Je suis certaine, je maintiens que l'acte de traduire est un acte d'écriture, d'auteur à part entière.
Traduire le temps, c'était le thème cette année des Assises de la traduction qui viennent de s'achever à Arles avec José Camoun en guest star pour sa traduction libre de 1984 d'Orwell, passée au présent pour rendre plus concret et plus glaçant encore le roman. Cette question du temps, de l'époque dans laquelle inscrire sa traduction, je vous propose d'écouter les mots du traducteur René de Secati qui insiste sur cette force des classiques qu'est leur présence continuelle à travers les siècles pour les traducteurs. C'est une difficulté forcément supplémentaire.
Les traductions sont nécessairement l'image de la langue qui est parlée au moment où vit le traducteur. Et Dante est encore plus difficile parce qu'il se Dante est un écrivain extraordinairement présent dans son siècle. Donc, il fait des références à ce que tout le monde savait au XIVe siècle, évidemment, on connaît beaucoup moins maintenant, en plus forte raison, dans une autre culture, la culture française. Mais le message profond de Dante est un message universel, et donc il s'agit de trouver la langue qui permet au lecteur actuel d'accéder. Moi, mon souci, vous savez, ça a été d'éliminer les notes. C'est-à-dire que lire Dante pour un Italien même et pour un Français, c'est passer son temps à lire des notes. Parce qu'on ne comprend rien à ce à quoi il fait référence et parfois la langue est trop archaïque. Alors je me suis dit, il faut que l'aspect livre d'aventure, qui est très présent, c'est un voyage parmi les morts, hein, comme chez Homère et chez Virgile, et c'est comme une traversée, en plus la descente au fond de l'enfer, c'est vraiment, c'est Jules Verne, hein, c'est proche de ça, et donc que tout ça soit très présent.
À quel temps, celui de l'action et de la pensée de Dante, avez-vous choisi de traduire cette divine comédie, Daniel Robert ?
Je l'ai traduite en... avec notre langage moderne, bien sûr. Mais pour ce qui concerne l'ajout de notes, je ne partage pas l'avis de René de Secati. L'œuvre de Dante et des poètes de cette époque est incompréhensible si on ne donne pas les clés pour que le lecteur puisse avoir accès à l'œuvre complètement. Il y a tellement de faits historiques, philosophiques, religieux, théologiques, des lieux que nous ne connaissons plus. Il faut forcément donner des indications. Mais je ne l'ai pas fait en bas de page, comme on dit. J'ai mis tout ça à la fin. Donc le lecteur est libre de lire d'un seul tenant le texte et d'aller, s'il en a besoin, voir les notes.
Voilà, et en plus de cette question des notes, vous vous êtes fixé deux interdits, Daniel Robert, la prose, ça vous l'avez banni, et les coupes aussi dans le texte. Sur cette question de la temporalité, il faut dire que c'est une des particularités du style de Dante. C'est une œuvre en mouvement où le protagoniste, poète, narrateur, avance, progresse continuellement dans la Divine Comédie. Il fallait peut-être trouver aussi pour vous du coup le rythme de ses pas, la foule et de l'homme, comme l'avait écrit Mandelstam à propos du personnage protagoniste de la Divine Comédie. Je me tourne vers vous à nouveau, Jean-Jacques Greff, et vers L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Cette envie de retrouver le parler populaire des personnages de Stevenson, cet anglais corrompu des pirates, avez-vous dit, l'envie de sortir peut-être d'une traduction jusqu'ici un peu trop polissée. Comment avez-vous fait ? Qui sait vraiment comment parler les pirates du 18e, 19e ? Comment sonner leur argot ?
Ça, c'est, j'en sais rien. Moi, je me contente d'essayer d'être proche du texte de Stevenson. Lui-même, il a inventé un argot des pirates. Donc, ce n'est pas un véritable argot des pirates. Et il ne faut pas chercher une réalité dans ce qu'il écrit. C'est des pirates qu'il a inventés. Et donc, j'ai essayé de... quand il invente des mots, j'ai inventé des mots. Il m'a semblé que c'est un livre qu'il a écrit pour un enfant qui habitait chez lui. Il s'est marié avec une femme, enfin il a vécu, il s'est marié aussi, avec une femme qui était un peu plus âgée que lui, qui avait déjà un fils, et il a écrit pour un peu pour cet enfant et avec lui. Et il me semble que les pirates, ils parlent un peu comme des enfants. Ils changent les mots un peu comme les enfants le font. Donc peut-être que j'ai fait la même chose en utilisant la manière dont mes enfants ou mes petits-enfants pouvaient parler.
Est-ce que je peux vous demander de nous en lire un extrait, page 98 de votre livre, de votre traduction, vous voyez, même moi je m'y confonds, de L'île au trésor de Stevenson, retraduite par vos soins, Jean-Jacques Greff. Je vous propose de commencer vers la fin de la page 98. Dick est de notre côté, a déclaré Silver, on est dans le chapitre 11.
Alors, ici, attendez, fin de la... Dick, Dick est de notre côté, a déclaré Silver. Oh, je savais que Dick marcherait, a rétorqué la voix du chef de chaloupe, Israel Hans. Les pas fêlés, Dick. Il a changé sa chic de joue et craché. Mais vise-la, Barbecue. Barbecue, c'est le surnom de Long John Silver, parce qu'il est cuisinier. Mais vise-la, Barbecue, ce que je veux savoir. Combien de temps que nous allons navigoter comme un sacré caboteur ? J'en ai presque plein le dos du Captain Smollett. Il m'a assez engueulé, tonnerre. Je vais aller dans cette cabine, ouais. Je veux leur conserve et leur vin, tout ça. Israël, dit Silver, ta tête vaut pas gros, et c'est pas d'hier. Mais t'es capable d'entendre, je crois, au moins. T'as des oreilles de bonne taille. Alors, voilà ce que je dis. Tu couches à l'avant, tu bosses dur et tu parles doux, et tu restes sobre, jusqu'à ce que je donne le signal. Et c'est comme ça, mon fils. Eh, je dis pas non, hein, a grogné le chef de chaloupe. Ce que je dis, c'est quand. C'est ça que je dis. Quand? Par tous les diables. Si tu veux savoir, je vais te dire quand. Le plus tard possible, v'là quand. Il y a un marin de première, le capitaine Smollett, qui mène le navire pour nous. Il y a ce sieur et ce docteur qui ont une carte et tout. Je sais pas où qu'elle est, hein. Et toi non plus. Alors ben quoi? Je veux que ce sieur et ce docteur trouvent la marchandise et nous aident à la transporter à bord, par tous les diables. Ensuite, nous verrons. Si j'étais sûr de vous tous, fils de triple buse, je laisserais le capitaine Smollett parcourir la moitié du chemin de retour avant de frapper. Eh, nous sommes quand même tous des marins, je pense, a déclaré le jeune Dick. Je peux m'arrêter là et faire une petite remarque ?
Je vous en prie.
Alors là, c'est une scène très très intéressante. Parce que le jeune Dick, c'est quelqu'un que Long John Silver, qui est le méchant, a retourné. C'est-à-dire que c'était un jeune marin innocent, c'était pas un pirate. Et il lui a fait miroiter les avantages d'être pirate, particulièrement on allait partager le magot, alors que les braves nobles, enfin ou les gens chics qui menaient l'expédition, ils allaient sûrement pas faire ça. Et le pirate, le jeune homme, il a changé de camp. Il est devenu pirate. Vous voyez, il a choisi le mauvais côté de la force. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la même chose qui se passe dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, que Stevenson a fait toute sa vie. Dans tous ses livres, il y a toujours une dualité, vous voyez.
Chez les personnages,
ouais.
Jean-Jacques Greff, j'ajoute deux lignes et demie.
Ah oui,
non, sûr. Et après, on rediscute. Nous sommes tous de simples matelots.
Nous sommes tous de simples matelots, tu veux dire. a répliqué Silver sèchement. Nous pouvons tenir un cap, mais qui va le calculer ?
Parce que c'est toute la question de savoir qui va calculer le cap. Je vous propose qu'on relève la plume à cet instant-là et qu'on poursuive sur cette langue très particulière quand même de Stevenson. Vous disiez qu'il avait un langage parfois enfantin. En même temps, c'est pas un écrivain qui est, en tout cas L'île au trésor, si facile à lire pour des lecteurs, même anglo-saxons, cette langue de Stevenson. Il aimait les mots, il les choisissait avec précision, il a quand même une langue taillée presque à la serpe par moment.
Il écrit très très bien et ça se voit mieux dans certains autres livres. Parce que là, c'est la personne qui parle, c'est un enfant. Et donc, il ne va pas se mettre à faire du style, vous voyez, à écrire comme Giono ou je ne sais pas qui. Mais dans d'autres livres, il y a un style absolument magnifique. C'était un très, très bon écrivain.
Michel Lebris a beaucoup travaillé aussi à rendre Stevenson plus connu en France, à lui rendre ses lettres de noblesse dans l'Hexagone. Écoutez-le évoquer ses aventuriers, ceux qui construisent des bateaux, mais aussi des phares, mais aussi des phrases.
Stevenson, alors... Pour résumer, voilà un gamin qui naît dans une famille puritaine, rigide, qui s'est élevé à la force du poignet, à force de travail, dans des conditions en même temps quasiment héroïques. C'est une famille de constructeurs, d'ingénieurs, de constructeurs de phares. Ce sont les Stevenson qui ont construit tous les phares du Grand Nord, de l'Écosse. Il fallait y aller au sabre, au pistolet, autant qu'avec des instruments de maçonnerie, parce que c'est des zones de naufrageurs. Et si vous vouliez construire un phare, vous aviez tout de suite le pasteur et les habitants qui arrivaient avec des fourches, des faux, etc., en disant qu'ils sont ces mécréants qui veulent nous priver de notre gagne-pain, quoi. Et il a écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, qui s'appelle Northern Light, qui est tout à fait étonnant sur ses ancêtres constructeurs de phares. Et il dira, finalement, j'en suis un aussi, parce que j'aurais à ma manière essayé d'allumer un phare dans les ténèbres du monde.
Allumer un phare dans les ténèbres du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, Stevenson a la place qu'il mérite dans le paysage littéraire anglo-saxon, mais aussi français? Est-ce que c'est aussi à ça que vous souhaitez œuvrer, le rendre plus connu en retraduisant son Île au trésor?
Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Il avait une place très haute de son vivant, parce que ses contemporains admiraient son style et sa manière de faire. Et il a été un petit peu oublié, mais il est revenu à sa place depuis déjà pas mal de temps. Et on peut dire, d'une certaine façon, il a été redécouvert, en vérité, dès les années 30, je dirais, quelque chose comme ça, par le cinéma. Parce que c'est L'île au trésor et Dr. Jekyll et Mr. Hyde s'adaptent très très bien au cinéma. Il y a beaucoup de films et il y en a encore des récents. Et on continue à le faire.
Daniel Robert, et du côté de Dante, sur sa langue, la langue de Dante, vous avez dit qu'il était le forgeron de la langue italienne. Oui. Hein, cette langue, est-ce qu'elle vous était familière ou facile d'accès pour autant? Parce que c'est quand même très lyrique dans certains passages. Il y a aussi des parlers populaires ou locaux qu'il faut quand même retrouver et faire résonner en soi aujourd'hui.
Il y a toutes sortes de registres différents, de niveaux de langue différents, mais il se trouve que la langue de Dante n'est pas aussi éloignée de l'italien contemporain que ne l'est notre ancien français par rapport à la langue que nous parlons. C'est quand même moins éloigné. Cela dit, c'est une langue, difficile.
Alors, est-ce que vous pouvez nous lire un extrait, non pas du premier volume, L'Enfer, mais du second, qui vient de paraître, Le Purgatoire, extrait donc du deuxième volume de La Divine Comédie, paru chez Actes Sud. C'est le moment où Dante et Virgile entrent dans le paradis terrestre, ils viennent de quitter le purgatoire, et c'est le chant 28, extrait de ce passage très poétique, dans votre voix, Daniel Robert.
Impatient d'explorer dans tous ses détours l'épaisse, vive et divine futaie qui tamisait aux yeux le nouveau jour, sans plus attendre, du bord je m'éloignais, arpentant la campagne à pas lents, lents, sur un sol qui de toutes parts embaumait. Un léger souffle, qu'aucun ondoiement ne modifiait, me balayait le front, sans plus de vigueur qu'un vent caressant, sous lequel, frémissantes, les frondaisons penchaient toutes, dociles, vers cette part où jette sa première ombre le Saint-Mont, mais sans dans leur élan faire un écart si grand que les petits oiseaux sur les cimes ne pussent chacun exercer leur art. Qu'en pleine allégresse, chantant les matines, ils soient accueillis au milieu des feuilles dont le bourdon accompagnait leurs rimes, lequel de branche en branche se recueille lorsque dans les pins Éole a chassé le sirocco près de Chiassi, de son seuil. Mes palans m'avaient déjà transporté si loin au cœur de l'antique forêt que je ne pouvais en retrouver l'entrée, quand me barra la route un ruisselet qui, vers la gauche, de ses ondes légères, courbait l'herbe sur ses rives poussées. Toutes les eaux terrestres les plus claires apparaîtraient sans transparence aucune auprès de celle-ci que n'oblitère rien, bien qu'elle déambule, brune, brune, sous l'ombre perpétuelle où jamais ne passe un rayon de soleil ni de lune. Je retins mes pas et du regard passais le petit fleuve avant de contempler la diversité des frais rameaux de mai. Et là m'apparut, comme nous apparaît une chose qui écarte soudain par sa merveille toute autre pensée, une dame qui se lette sans vain, chantant, et en choisissant fleur à fleur celle dont était peint tout son chemin. Belle dame, qui au rayon d'amour tu réchauffes, si j'en crois les éléments, témoins du cœur comme ils le sont toujours, veuille agréer d'approcher plus avant, lui déclarai-je, le long de ce courant, pour que je puisse comprendre ton chant. Tu me rappelles le lieu et comment était Proserpine quand la perdit sa mère et elle-même le printemps.
Merci beaucoup, Daniel Robert. On entend bien la règle de trois hein, que s'était fixée Dante à travers cet extrait que vous venez de nous lire. Le texte est fait pour être lu à voix haute. Voilà, vous lui avez
absolument
rendu justice.
Et absolument, c'est un texte très oral et qui se prête beaucoup aussi au théâtre, bien sûr.
Et les classiques sont faits pour être retraduits, Jean-Jacques Greff.
Ah, c'est certain, c'est obligé pour des livres comme La Divine Comédie ou pour... je sais pas, Don Quichotte qui a été traduit à l'époque, si vous lisez la traduction de l'époque, c'est difficile. Et c'est bien de le retraduire. Et il y a beaucoup de... À certaines époques, les traducteurs étaient timides. Et s'il y avait des choses un peu grossières dans le livre étranger, ils mettaient des choses moins grossières dans le livre français. Donc maintenant, on fait des traductions plus proches des originaux.
Le Paradis, il sera pour bientôt, Daniel Robert ?
Oui, je l'espère pour 2020.
À peu près. 2020. Merci oui. Mille fois à vous, Daniel Robert. Je rappelle donc la parution retraduite chez Actes Sud de la nouvelle comédie de Dante, traduite par vos soins. Déjà, L'Enfer, premier volume, Le Purgatoire, second, En attendant, Le Paradis. Votre nom figure en minuscule sur la couverture, pas le vôtre, Jean-Jacques Greff. Et pourtant, Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, vient donc de paraître dans votre nouvelle traduction chez Tristram. Merci beaucoup à tous les deux.